Le billet de loterie. Troisième enquête de François Lecan, détective aveugle. Ce sera moi, François Lecan, aveugle de guerre, qui raconterai cet épisode. Ma femme en a assez pour le moment du rôle de narratrice. À vrai dire, ma petite enquête au sujet du billet de loterie égaré fut d'une telle simplicité, la trace était si évidente, que je crains fort de n'intéresser que très peu les lecteurs. Cependant, ma femme trouve que, si je raconte ces divers incidents, je dois suivre l'ordre où ils se sont produits. L'enquête numéro 3 sortait directement de l'enquête numéro 2. Voici comment. Comme nous entrions en ville tous les quatre, je devrais dire tous les cinq, car le bon caniche Ali trottait à côté de nous d'un air encore un peu endormi, me disait Lucie. Madame Fouquet nous pria de monter chez elle afin qu'elle pût me remettre tout de suite la récompense stipulée. Elle désirait d'ailleurs causer encore un peu de ce qui s'était passé au Courtil, n'ayant pas bien saisi tous les points de mon explication. Je suis toujours attentif aux endroits où je passe. L'escalier de pierre sans tapis, le vestibule avec une natte de coco, le salon frais dont les persiennes devaient être baissées, je me rends toujours compte des dimensions d'une pièce quand j'y entre, par la résonance de la voix et du pas. Ce salon était vaste et haut de plafond, mais assourdi par beaucoup de meubles et de rideaux. On nous fit asseoir. Lucie se mit à côté de moi et, en étendant la main, je m'assurai qu'elle était assise sur un bon fauteuil capitonné. Je la devinai très lasse de nos courses au pas de charge. Madame Fouquet insista pour nous faire servir une petite collation que la bonne Catherine apporta et dont elle prit sa part sur l'invitation de sa maîtresse. Je dus répondre encore à de nombreuses questions. Il me semblait pourtant que le fil de mes déductions était d'une évidence enfantine. Un gosse de 5 ans l'aurait suivi. Tout à coup, Catherine s'écria, avec la liberté d'une vieille domestique de confiance, « Pendant que madame y est, si j'étais à sa place, je demanderais à monsieur Lecan de retrouver le billet de loterie qui fait du mauvais sang à madame. » Madame Fouquet ne répondit rien tout d'abord. Au bout d'un instant, elle dit « C'est vrai tout de même qu'à présent notre Ali retrouvé, je vais recommencer à me tourmenter pour ce billet. Pensez-vous vraiment, monsieur Lecan, que vous pourriez me le retrouver ?»« Pourquoi pas, dis-je en riant moi-même de ma présomption. Donnez-moi d'abord quelques détails. » « Faut-il que j'aille vous chercher votre jeu de cartes ?» demanda vivement Catherine, qui n'en démordait pas de son idée. Non, non, je ne tire jamais les cartes que chez moi, fis-je sans perdre mon temps à des dénégations. Voudriez-vous, madame Fouquet, me dire tout ce qui concerne le billet de loterie en question ? C'est un billet de la loterie du Grand Journal en faveur des réfugiés du Nord. Je l'ai acheté il y a 3 semaines d'une personne qui voulait s'en défaire. Je l'ai acheté comme j'aurais donné 5 francs à une souscription, sans compter du tout sur un lot. Pourtant, comme j'ai de l'ordre, j'avais noté le numéro dans mon agenda, 45 667. Le tirage a eu lieu il y a une quinzaine. La liste des numéros gagnants m'est tombée sous les yeux le même soir et j'ai été bien étonné de voir que mon billet gagnait 2 000 francs. « 2 000 francs !» s'exclama Lucie. « Voilà une tuile qui n'a pas dû vous faire mal. » Au contraire, elle m'a fait beaucoup de mal car je n'ai pas pu retrouver mon billet et je n'ai eu que du tourment depuis lors. Catherine et moi, nous n'avons cessé de chercher ce billet qu'un seul jour, le jour où Ali avait disparu, et je suppose que nous allons recommencer à l'instant nos recherches, qui d'ailleurs ne serviront à rien. Ali a été volé, pour moi, le billet a été volé de même. Avez-vous cherché d'une façon méthodique ? Demandai-je. Nous avons commencé par une chambre et suivi par une autre chambre, dans tous les tiroirs, dans toutes les armoires, dans tous les coins, dans les paquets de morceaux d'étoffe, dans les corbeilles de raccommodage, dans les cartons de ruban, dans la caisse où Catherine met les papiers d'emballage et les ficelles, dans la dépense aux provisions. Catherine a même ouvert des pots de confiture de l'année passée, ajouta Madame Fouquet, dont la voix passait nerveusement du rire aux larmes. Pour 2 000 francs, je comprends qu'on fasse une revue de maison complète, dit Lucie. Je la ferai plutôt 2 fois qu'une. Où aviez-vous serré le billet ? Demandai-je. dans un des tiroirs de ma table à écrire. Où est cette table à écrire ? Dans ma chambre, près de la fenêtre. Un cambrioleur est entré par cette fenêtre et a volé le billet, prononça Catherine. Quelqu'un savait-il que vous aviez acheté ce billet ? Non, à moins que Catherine ne l'ait raconté à toute la ville, ce qui serait assez dans ses habitudes. Ah, si madame peut dire, protesta la bonne femme, à peine si je l'ai dit chez le boucher et au facteur. Mais savait-on que vous l'aviez mis dans ce certain tiroir ? Repris-je. Ça, dit Catherine, je me serais fait couper la langue après l'avoir dit, parce que ça serait été trahir madame. Même si quelqu'un l'avait su, je ne vois pas, dit madame Fouquet, comment on serait entré dans ma chambre, soit de jour, soit de nuit. D'ailleurs, dis-je, pourquoi aurait-on volé ce billet avant le tirage, donc sans savoir qu'il était gagnant ? Si on l'a volé, c'est depuis le tirage. Quelqu'un pouvait-il en connaître le numéro ? Mademoiselle Catherine, en aviez-vous le numéro dans la mémoire ? Pour les chiffres, dit Catherine, ma mémoire est une passoire à grands trous. Tenez, il n'y a pas 5 minutes que madame l'a dit, ce numéro. Fouillez-moi si je m'en souviens. C'est comme moi, dit Lucie, je n'y ai même pas fait attention. Si on me le demandait, je ne pourrais pas le dire. Et vous, monsieur Lecamp ? Demanda madame Fouquet. Moi, dis-je, je suis obligé d'avoir de l'attention et de la mémoire, cela fait partie du métier d'aveugle, même si on n'est pas, comme nous disons, un aveugle de carrière, autrement dit de naissance, mais un aveuglé, ce qui est différent. Mais poursuivons. Votre billet pourrait-il avoir été volé par une personne qui aurait eu connaissance avant vous de la liste du tirage ? Ce n'est guère probable. Nous recevons le grand journal à 3 heures de l'après-midi par la poste. Personne dans la ville ne le reçoit plus tôt. J'ai vu la liste, je l'ai parcourue, j'ai cherché mon billet dans le tiroir, il n'y était plus. Que tenez-vous d'autre dans ce tiroir ? Demandai-je. Pas grand-chose que mon buvard, avec mon papier à lettres, ma boîte de timbre-poste, quelques lettres que je garde. Vous avez mis le billet dans votre buvard ? Je sais que je l'ai mis dans le tiroir, mais si je l'ai mis dans le buvard, je n'en pourrais pas jurer. En tout cas, j'ai tout examiné, tout fouillé. Il faut vous dire, monsieur Lecamp, et comme vous êtes aussi une victime de la guerre, vous me comprendrez, que depuis la mort de mon cher Aurélien, je ne suis plus la même. Le chagrin m'a brouillé l'esprit. Les souvenirs me reviennent constamment, et alors je ne pense plus à ce que je fais. J'ai des distractions. Je viens à ma table à écrire, j'ouvre le tiroir, mais en même temps, mes yeux rencontrent le portrait de mon fils, et pendant que mes mains agissent, ma pensée est ailleurs. Oui, je me souviens distinctement d'avoir ouvert le tiroir pour y mettre le billet, mais si je l'ai posé sur le buvard, sous le buvard, dans le buvard, je ne sais plus. Avez-vous ouvert souvent ce tiroir depuis que vous y avez mis le billet ? Non, pas souvent. Comme je vous l'ai dit, il n'y a guère que 3 semaines de cela. Je n'ouvre le tiroir du buvard que lorsque j'écris des lettres, ce qui ne m'arrive que rarement. Voyons, j'ai écrit à ma couturière, à la veuve de mon fils, à ma cousine Chaume, c'est tout, je crois. Du reste, ces lettres sont inscrites à leur date dans mon carnet de correspondance. Voulez-vous voir ma table à écrire, vous rendre compte des tiroirs ? Cela n'est pas nécessaire, je crois, répondis-je, du moins pas pour le moment. Je vais rentrer, réfléchir un peu, et si mademoiselle Catherine pouvait passer dans la soirée, je lui dirai alors si j'ai besoin d'autres informations. Lucie et moi nous prîmes congé. Mon porte-monnaie s'était enrichi d'un billet de 100 francs, et ce qui m'était presque plus précieux encore, j'emportais dans ma tête une petite énigme à résoudre, de quoi chasser le cafard pendant quelques jours. Ma femme était tellement fatiguée de ses courses dans la poussière et la chaleur, que je l'engageais à aller faire un petit somme, et pendant qu'elle se reposait, je préparais notre simple dîner, je chauffais le bouillon, je fis une salade, je mis le couvert, je pris la viande froide dans le buffet. Notre petit ménage m'était familier, et Lucie a cette admirable qualité de mettre toujours chaque objet à la même place, ce qui me permet de le trouver sans hésitation. Tout en allant et venant, je réfléchissais à mon problème en y appliquant le raisonnement de mon bon sens, ce qui est la meilleure méthode. Je posais les faits chacun dans sa case et je tâchais de voir comment ils se reliaient entre eux. J'étais arrivé à une hypothèse qui me semblait probable quand Lucie se réveilla et vint se mettre à table. Au son de sa voix, je devinais qu'elle était souffrante. « Ce n'est rien, dit-elle, un mal de tête qui sera passé demain matin. Non, je n'irai pas me coucher, je veux entendre ta conversation avec Catherine. Mais vois-tu, François, il me semble peu probable que tu retrouves ce billet quand ces deux femmes n'y ont pas réussi en mettant la maison sans dessus-dessous. Moi, dis-je, j'en tire cette conclusion que le billet n'est pas dans la maison. Et ce n'est certes pas là que je le chercherai. Tu penses qu'on l'a volé ? Je ne dis rien avant d'avoir de Mademoiselle Catherine quelques renseignements complémentaires. » Catherine arriva vers 8 heures très essoufflée. « Je n'ai fait qu'une enjambée de là à ici, » fit-elle, se laissant tomber sur une chaise, ce qui me fut perceptible car la chaise craqua, Mademoiselle Catherine étant un poids lourd. « Si vous pouvez tirer Madame de peine, Monsieur le Camp, ne la laissez pas trop longtemps cuire dans son jus. » Avec tous les arias et les chagrins qu'elle a eus depuis la mort de son fils, et puis notre ali perdu, et ce billet qu'on ne remet pas la main dessus, pour sûr et certain, Madame aura une crise de foi. Prenez vite vos cartes et faites-nous le grand jeu, ça coûtera ce que ça coûtera. Ça vous coûtera 200 francs si le billet se retrouve, et rien du tout si le billet ne se retrouve pas. 200 francs ? Vous n'y allez pas avec le dos de la cuillère, s'exclama Catherine. C'est le 10% de la valeur de l'objet retrouvé. Mon mari a raison, fit Lucie en intervenant. Nous avons eu une petite affaire où on a contesté la récompense. Alors il faut s'entendre et mettre les points sur les i. Je le dirai à madame, si elle retrouve son billet, c'est encore 1 800 francs de sauvé. Une question, mademoiselle Catherine. Madame Fouquet a-t-elle écrit à l'administration du grand journal pour interdire le paiement du billet à une autre personne qu'elle-même ? Bien sûr que madame l'a fait. Le journal a répondu qu'on ne pouvait pas entrer dans ces considérations-là, qu'il n'y a aucune preuve que le billet appartienne à madame et que le billet sera payé à la personne qui le présentera. Évidemment, dis-je, c'est la règle. C'est embêtant tout de même. Madame n'a pas de chance, vraiment. La succession de son fils n'a déjà pas été facile à régler. Madame Labru n'a pas été commode. Pourtant, elle n'est pas à plaindre avec son bon petit bureau de poste à Chanson-le-Gobeur, pas d'enfant, sa retraite au bout du compte si elle reste receveuse. Mais pour moi, elle se remariera. Madame a fait des concessions pour ne pas y mettre les hommes de loi. En définitive, elles sont à peu près brouillées. Encore un chagrin. Et madame n'a plus guère que sa cousine Chaume, une bonne patte. Elle passe 6 semaines chez nous chaque automne pour les raisins. Puis des neveux à Paris, trop huppés pour nous, ils sont dans la banque. Est-ce que vous n'allez pas prendre vos tarots, monsieur le Camp ? Ça m'intéresserait de voir comment vous les tirez. Je ne les tire jamais en public, mademoiselle Catherine. Du reste, sans les tarots, je puis vous dire une chose. Le billet sera retrouvé dans 4 jours, ou alors il ne se retrouvera pas. Ça calmera toujours un peu, madame, fit Catherine en se levant. Oui, mais il faut que demain matin, vous m'apportiez la promesse de récompense. Promesse écrite et signée. Les affaires bien faites n'amènent jamais de désagréments. Le petit papier signé me fut envoyé le lendemain. Je crois bien qu'au fond d'elle-même, ma chère Lucie n'aimait pas beaucoup mon insistance pour la récompense due. Mais je connais le monde mieux qu'elle. Chacun ne paie que ce qu'il est obligé de payer. Exception faite peut-être pour M. Lucien Choux et ses 500 francs. Mais là encore, on pensait s'assurer mieux notre silence sur l'affaire de la bague volée. Il faut se mettre à ma place. Avec ma pension de 3,65 francs par jour, et malgré la plus stricte économie, je n'entretenais pas mon ménage. Lucie était obligée de faire des demi-journées, soit au Vaubleu, soit à sa couture, pour nouer les deux bouts. Quand je pensais à cette somme globale de 600 francs, que j'avais déjà gagnée par 2 enquêtes, et que j'ajoutais mentalement 200 francs dont j'étais à peu près sûr, il me montait au cœur une joie et une fierté que vous comprendrez sans doute. C'était du pain sur la planche pour des mois et c'était une réserve en cas d'imprévu. Toute la nuit, je ne fis que tourner et ruminer mon hypothèse pour voir si elle s'adapterait bien de tous les côtés. J'en cherchais une autre comme contre-épreuve, mais je ne trouvais rien qui pût satisfaire à tout, comme la première. Le matin, à la première heure, j'écrivis une lettre, je tapai l'adresse sur l'enveloppe, puis, avant de glisser la feuille dans l'enveloppe, je demandais à Lucie de me procurer un grand bouchon, de ceux qui ferment les flacons de moutarde ou les autres bouteilles à large cou. Elle m'en mit un dans les mains, je vérifiai sa dimension, puis, avec une lime, j'en fis la tranche plate et unie, puis je marquai un cercle autour et quelques petits dessins dans le milieu. « Voudrais-tu, dis-je à Lucie, allumer une bougie et me noircir un peu la tranche de ce bouchon ? Au-dessus de la flamme, en tenant la surface perpendiculaire, de façon à ce que les aspérités surtout soient touchées par la fumée. Ensuite, tu prendras un morceau de papier blanc et tu imprimeras le bouchon, puis tu me diras ce que tu vois. » Ma femme obéit exactement à mes instructions, comme elle le fait toujours, et je sais que je puis m'en remettre à ses yeux. Elle me dit au bout de quelques minutes « C'est fait, il y a sur le papier un cercle un peu écorché et dans le milieu des barbouillages qui ressemblent à de l'écriture. Mais je défie bien n'importe qui d'y comprendre quelque chose. » « Est-ce très noir ? » demandai-je. « Oui, c'est très noir. » « Dans ce cas, il doit rester assez dessus pour une seconde impression. Passe-moi le bouchon. » Je l'appliquai moi-même soigneusement dans le coin gauche inférieur de ma lettre. Ensuite, je demandai une plume à Lucie et je traçai à vue de nez, c'est le cas de le dire, une sorte de signature penchée, parfaitement illisible comme la plupart des signatures. Je fermai la lettre moi-même, y collai le timbre et j'allai la jeter à la poste, car je faisais ce petit trajet seul très souvent, me guidant par le bord du trottoir continu avec ma canne. Je ne voulais pas que Lucie pût, même involontairement, jeter un coup d'œil à l'adresse. Je lui réservais la surprise entière du résultat. D'ailleurs, il faut être sincère, comme pour l'affaire du caniche, j'avais des doutes sur ma perspicacité. Mon enquête pouvait finir en four noir. 3 jours passèrent qui furent longs. Le 4e jour s'écoula jusqu'à 4 heures de l'après-midi. Nous allions sortir pour notre promenade habituelle quand des pas pressés traversèrent notre cour. On frappa, on entra comme un gros coup de vent. C'était Catherine, haletante, qui cria avant même d'avoir repris haleine. « Ah, le billet est retrouvé !» Je pris un air froid et assuré. C'était immanquable, et le 4e jour, comme je vous l'avais dit, prononçai-je. Mais comment pouviez-vous le savoir, et qu'il est venu par la poste avec pas un mot d'explication dedans? On n'est pas fichu de lire le timbre du bureau postal d'où ce qu'il est parti. Enfin quoi, vous êtes un sorcier que je commence à avoir peur de vous. Je n'apporte pas la récompense, madame l'apportera elle-même un peu plus tard, quand elle sera remise, elle a des palpitations de cœur depuis que le facteur a passé. Vers 7 heures, après le dîner, madame Fouquet nous honora en effet d'une visite. Elle remit 2 billets de 100 francs à Lucie et elle ajouta « Pour le prix, monsieur Lecamp, vous me devez bien quelques éclaircissements. Où était mon billet de loterie? L'avez-vous trouvé dans la maison? S'est-il envolé par la fenêtre dans la rue? Quelqu'un l'a-t-il ramassé? Est-ce vous-même à qui, peut-être, on l'avait remis? Ou est-ce moi-même qui vous l'avais volé, comme je vous ai volé votre caniche noire? Dis-je pour montrer à madame Fouquet que je devinais bien toute sa pensée. Comme c'est vraisemblable, n'est-ce pas? Non, ce n'est pas vraisemblable, j'en conviens, mais tout de même, vous ne me direz pas que vous n'aviez qu'attendre un aimant et que mon billet est venu tout seul s'y coller. C'est cela même, madame, j'ai tendu un aimant et votre billet est venu s'y coller. Je ne dirai pas un mot de plus, vous avez gagné aujourd'hui 1800 francs et moi 200. Nous en restons là. » Madame Fouquet s'en alla très peu satisfaite et jusqu'à aujourd'hui, je suis persuadée qu'elle entretient des doutes sur ma probité. Quant à Catherine, je suis pour elle et je demeure un sorcier, bienfaisant dans certains cas, mais redoutable. » Quand ma cliente fut sortie, Lucie me dit « Je crois bien que tu as tort, mon cher François, de faire tant le mystérieux. Tu as expliqué à Madame Fouquet ton enquête au sujet de son caniche. Pourquoi ne pas faire de même au sujet de ce billet de loterie ?»« Un scrupule m'en empêche, dis-je. Et d'ailleurs, il vaut mieux pour Madame Fouquet elle-même qu'elle demeure dans l'ignorance. » « Et à moi, tu ne diras rien ?» fit Lucie assez plaintivement. « À toi, je dirai tout, ma bonne amie. Je connais ta discrétion. Je sais que personne ne pourrait t'arracher un mot des petits secrets que je te confie. » « Ça, je te le promets bien. Même à ton frère Henri, il ne faudra rien dire. » Même Henri, un secret qui est à trois personnes est à tout le monde, tandis que toi et moi, nous ne sommes qu'un. » Lucie me passa son bras autour du cou et me dit « Commence !»« Eh bien, dis-je, la première condition quand on fait une enquête est de se mettre dans la peau de la personne en cause et de se demander ce qu'on ferait à sa place. Voyons, Lucie, tu as de l'ordre, Madame Fouquet a de l'ordre. » Représente-toi que tu viens d'acheter un billet de loterie. Que fais-tu du billet en attendant que la loterie soit tirée ? Je mettrai le billet dans un des petits tiroirs du bureau, répondit Lucie. C'est précisément ce qu'a fait Madame Fouquet, dis-je. Elle est allée dans sa chambre, a ouvert le tiroir de sa table à écrire, où elle tient son buvard, puis elle a regardé le portrait de son fils qui est sur la table, elle s'est perdue dans ses souvenirs, et ce qu'elle a fait ensuite, elle l'a fait si machinalement qu'elle ne se le rappelle plus. De nouveau, Lucie, mets-toi à sa place. Tu as ouvert le tiroir, tu as devant toi le buvard qui contient du papier à lettres et des enveloppes probablement. Tu as le billet dans la main. Qu'en fais-tu ? Moi, je l'aurais mis dans une enveloppe et j'aurais écrit dessus « Billet de loterie, numéro ?» Ah, je ne sais pas le numéro. Numéro 45667, complétai-je. François, s'exclama Lucie, comment sais-tu le numéro ? Tu as déjà oublié que Madame Fouquet l'a dit devant nous en ajoutant qu'elle l'avait noté dans son agenda ? Oui, maintenant ça me revient. Mais comment as-tu fait pour le garder dans ta mémoire ? C'est un nombre facile puisque ce sont des chiffres qui se suivent avec le 6 répété. Mais je m'en serais souvenu, même s'il avait été difficile, pour la seule raison que j'écoute bien, n'étant pas distrait par la vue. Bon, nous en sommes au point voulu. Madame Fouquet, machinalement, a glissé le billet dans une enveloppe, ce qu'aurait fait toute femme soigneuse. Seulement, occupée du portrait de son fils, elle a oublié d'écrire une note sur cette enveloppe et l'a laissée avec les autres dans le buvard. Plus tard, elle a écrit des lettres, elle nous l'a dit, à sa couturière, à sa belle-fille, à sa cousine Chaume. « Ma chère Lucie, suis-moi dans mes petites déductions qui se sont trouvées justes. Madame Fouquet vient d'écrire une lettre, elle la glisse dans l'enveloppe qui se trouve sur les autres, elle ferme l'enveloppe, elle l'expédie. » « Crois-tu vraiment, demanda Lucie, que Madame Fouquet aurait pu ne pas voir le billet de loterie dans l'enveloppe ?» Ces billets sont généralement imprimés sur un papier mince du format d'une grande enveloppe. Si le côté imprimé ne se trouvait pas en dehors, le papier pouvait sembler être l'intérieur de l'enveloppe. Admets donc que les choses se soient passées ainsi. Maintenant, laquelle des correspondantes peut-elle être soupçonnée d'avoir trouvé le billet dans la lettre qu'elle a reçue et de ne pas l'avoir retourné à sa propriétaire ? Note bien ceci, le billet n'était pas encore gagnant. Si on l'a gardé, c'était dans le seul but d'ennuyer Madame Fouquet, ou peut-être parce qu'on ne se souciait pas de lui écrire et de lui rendre un bon office. La couturière ne pouvait avoir ce motif, la cousine Chaume encore moins, puisque nous savons par la bavarde Catherine que cette personne a, au contraire, toutes les raisons de se rendre agréable à sa parente, chez laquelle elle passe 6 semaines chaque automne pour les raisins. « Quelle mémoire tu as !» s'exclama Lucie. « Moi, quand Mademoiselle Catherine commence ses longues bavettes, je n'écoute que d'une oreille. »« Moi, au contraire, si j'avais 3 oreilles, j'écouterais des 3. Ce sont des perles qui tombent de la bouche de Mademoiselle Catherine. Tous les renseignements nécessaires pour la suite, je les tiens d'elle sans même avoir fait une question. Voilà donc la couturière et la cousine éliminées. L'une et l'autre, si elles avaient trouvé le billet dans l'enveloppe, l'auraient immédiatement retourné. Reste donc la Bru. Toujours grâce à Mademoiselle Catherine, nous savons que Madame Fouquet est à peu près brouillée avec sa belle-fille. La dernière lettre qu'elle lui écrivit avait rapport à des affaires d'argent et elle était probablement d'un ton désagréable. La Bru, mal disposée pour sa belle-mère, irritée par la lettre et y trouvant un billet de loterie, s'est dit probablement « Tant pis, ma belle-mère le cherchera ». A-t-elle appris ensuite par son journal que le billet était gagnant? A-t-elle songé à l'encaisser elle-même? Ou a-t-elle voulu seulement causer à sa belle-mère une perte d'argent sensible? Ou bien, ayant trop tardé à renvoyer le billet, s'est-elle trouvée gênée de donner des explications sur le retard? Ces diverses explications sont plausibles, mais mon hypothèse restait la même. C'est à la Bru qu'il faut réclamer le billet. Et c'est à elle que je l'ai réclamé. Mais tu ne la connais pas, tu ne sais ni son nom ni son adresse, s'écria Lucie. Je constate qu'en effet tu n'écoutes guère. Madame Fouquet nous a parlé de son fils Aurélien. La veuve est donc Madame Veuve Aurélien Fouquet. Et l'inestimable Catherine nous a révélé qu'elle est receveuse postale à Chanson-le-Gobeur. Dans quel département ? Demanda Lucie, sûre cette fois de me poser une colle. J'aurais pu avoir ce renseignement au bureau postal, mais il se trouve que nous avons cantonné dans ce bourg avec notre régiment au début de la guerre. On n'oublie pas un nom comme celui-là. Meurthe-et-Moselle, ma bonne Lucie. Je vois que tu es calée, concéda-t-elle, mais je me demande ce que tu as bien pu lui écrire à cette veuve-là. Je lui ai écrit « Madame, il est venu à notre connaissance que vous détenez indûment le billet numéro 45667 de la loterie du Grand Journal. Ce billet, comme vous le savez fort bien, appartient à Madame Veuve Fouquet, 45 rue Gambetta, Garlat, Seine-et-Oise. Veuillez le retourner immédiatement. Vous pouvez vous abstenir d'ajouter votre signature ou aucune autre communication. » Faute de quoi, il sera procédé légalement contre vous avec toutes preuves à l'appui. Le chargé d'affaires. Une signature à l'encre, barbouillée, illisible, et puis le cachet fait avec un bouchon, et qui devait avoir tout à fait l'air d'un sein de bureau. « Mon Dieu, si tu t'étais trompée !» s'exclama Lucie. « Si je m'étais trompée, il n'y aurait pas eu grand mal. Au bout de 4 jours, j'aurais su que l'affaire finissait en eau de boudin. » Mes déductions auraient été fausses, et comme je n'ai trouvé aucune hypothèse qui plaque, j'aurais abandonné l'enquête. Je comprends maintenant, dit Lucie, qu'en effet, tu ne pouvais guère donner à Madame Fouquet les explications qu'elle réclamait. Ça aurait été la brouiller définitivement avec sa belle-fille qui lui jouait ce mauvais tour. Oui, n'est-ce pas ? D'autant plus qu'en engageant dans ma lettre cette dame à ne donner ni sa signature ni aucune autre indication, je m'engageais moi-même, pour ainsi dire, à lui faciliter le secret. Une chose pouvait la trahir, fit Lucie, le timbre postal qui indique le bureau d'où la lettre est partie. Mais c'est là précisément que sa place de receveuse lui faisait une grande facilité. Il est bien simple de donner un coup d'éponge ou de pouce sur l'empreinte humide et de la barbouiller suffisamment pour la rendre illisible. D'autre part, Madame Veuve Aurélien Fouquet pouvait envoyer ce billet sous double enveloppe à un correspondant quelconque en le priant de mettre la lettre à la poste, à Paris par exemple. Mais Catherine nous a dit, tu t'en souviens, que le nom du bureau de départ était illisible. « Voilà donc, ajoutai-je, une petite affaire qui finit bien pour tout le monde. »